Le journal présenté par François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. Les dés sont jetés pour les votations fédérales de ce dimanche. Pas moins de 5 objets étaient soumis au peuple suisse. Le tour des principaux enjeux avec notre correspondant au palais fédéral, Serge Jubin. Un beau coup de projecteur pour l'industrie jurassienne. Vima Macodel a décroché lundi le prestigieux prix SVC Suisse Romande 2020. Richard Milot-Breuleux a pris la deuxième place. Football, retour sur un résultat décevant pour l'équipe de Suisse pour son entrée dans l'Euro. Les Helvètes ont été contraints au match nul hier contre le Pays de Galles. Yann Sommer nous fera part de sa déception. Météo, un temps bien ensoleillé, des températures de saison aujourd'hui. Quelques petits cumulus pourraient toutefois se former sur les crêtes. Il fera entre 22 et 25 degrés maximum cet après-midi. Un menu copieux pour ce dimanche de votation fédérale avec pas moins de 5 objets. L'indigestion pourrait même frapper le peuple suisse puisque la participation est annoncée plus faible que de coutume. Le menu du jour se présente également de manière hétéroclite. Il est question d'outils pour lutter contre le réchauffement climatique, de lutte contre les pesticides, de lutte contre le terrorisme et de mesures de soutien financier liées au Covid. Selon les sondages, 2 oui et 2 non pourraient sortir des urnes et les premières tendances semblent le confirmer. Le suspense est en revanche total concernant la loi sur le CO2, les enjeux de ce texte avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Vous l'avez dit, l'objet central est la loi sur le CO2 pour respecter les accords de Paris sur le climat et l'objectif d'émission nulle de CO2 en 2050. La Suisse doit prendre des mesures fortes. La loi constitue une première étape. Elle doit permettre de diviser par deux les gaz à effet de serre d'ici à 2030. C'est un arsenal de mesures combinées, pas forcément facile à déchiffrer. Longuement négocié par le Parlement, il y a des taxes incitatives, de la redistribution, le principe du pollueur-payeur et du bon élève récompensé. La mesure emblématique est la taxe sur les billets d'avion. D'abord créditée d'une bonne avance dans les sondages, la loi est fragilisée en fin de campagne. À mi-mai, la loi sur le CO2 ne recueillait plus que 54% de oui contre 43% d'opposition. Il reste certes un écart positif. Survivra-t-il ce dimanche après-midi?
Et selon l'Institut GFS Berne, aucune tendance claire ne se détache pour l'instant sur cet objet selon les premières projections. Deux textes ont focalisé l'attention durant la campagne. Les initiatives qui interdiraient les pesticides ont animé les débats. Parfois plus que de raison, on retrouve Serge Jubin.
Les deux initiatives qui s'attaquent aux pesticides ont donné lieu à une campagne acharnée, notamment dans les campagnes. Elles mettent face à face en particulier les paysans eux-mêmes et le conflit pourrait être réglé dans les villes. Mais le taux d'acceptation des initiatives est passé sous la barre des 50%, leur donnant très peu de chances d'être validées dans les urnes. Et si l'initiative contre les pesticides de synthèse devait tout de même être acceptée par une majorité populaire, elle échouera certainement à la majorité des cantons. Les deux lois, Covid et de lutte contre le terrorisme combattues par référendum, s'acheminent vers deux validations populaires assez larges. Encore qu'il faille se montrer prudent, les mouvements d'humeur de l'électorat ne sont pas à exclure et ils pourraient avoir d'autant plus d'effet que la participation annonce plutôt basse.
Et toujours selon GFS Berne, les deux initiatives anti-pesticides seraient rejetées à la majorité du peuple à la lumière des premières tendances. La loi Covid et la loi de lutte contre le terrorisme seraient par contre acceptées. D'autres objets sont soumis aux Jurassiens aujourd'hui. Il s'agit de l'initiative cantonale pour l'égalité salariale, de deux crédits pour l'école primaire de Haute-Sorne et pour le complexe scolaire de Courandelin. La commune de Montfaucon a également élu un maire et un conseiller communal lors d'un scrutin libre aujourd'hui. Nous vous tiendrons au courant des résultats dans nos flashs à partir de 13h ainsi que sur notre site internet et dans une édition spéciale du journal de 18h. Le canton du Jura trône au sommet du palmarès roman de l'innovation. Vima Macodel à Delémont a obtenu lundi le prestigieux prix SVC Suisse Romande 2020. La distinction récompense l'entreprise pour ses qualités en termes d'innovation et d'entrepreneuriat. La deuxième place du classement est occupée par une autre société jurassienne, le groupe horloger Richard Milot-Breuleux. Pour Vima Macodel, l'obtention du prix SVC Suisse Romande constitue une belle récompense. La distinction ne devrait toutefois pas déboucher sur des commandes concrètes et immédiates pour l'entreprise qui fabrique des machines-outils, comme l'indique Olivier Aigli, co-directeur de Vima Macodel.
C'est très difficile à dire et on peut estimer que c'est assez peu probable. Mais ça donne une belle visibilité sur l'entreprise, ça apporte de la lumière. Et puis, au vu des échos qu'on a déjà reçus de la part de nos clients notamment, ça apporte de la confiance. Parce que c'est la marque que l'entreprise, que les collaborateurs travaillent dans la bonne direction, sont innovants et organisés. Donc c'est vrai que c'est un prix qui a un impact régional très fort au niveau suisse romand. Au niveau international, c'est un peu plus faible, même si on a constaté et on a reçu des félicitations venant de très loin. Mais voilà, ça ne va pas apporter de business supplémentaire à très court terme, mais de la confiance parmi nos partenaires.
C'est aussi quelque part une image avec ce prix que vous souhaitez mettre en avant.
C'est quand même l'image d'une société qui est bien ancrée dans son Jura, à Delémont, avec un savoir-faire local, avec des collaborateurs locaux. On a des frontaliers qui font partie de la même région que la nôtre. Mais c'est vraiment une société familiale qui veut s'installer, qui veut être là durablement et solidement dans sa région.
Le caractère novateur de Vimama Codel se voit ainsi récompensé par le prix SVC Suisse Romande. Le canton du Jura n'est pas forcément associé à l'innovation au-delà de ses frontières pour le grand public, contrairement à la région lémanique par exemple. Pour le co-directeur de Vimama Codel, Patrick Aigli, cela tient à plusieurs explications.
Le Jura est comme le berceau des microtechniques, il est très connu évidemment dans le secteur de l'horlogerie. Et ce n'est pas toujours évident non plus pour le grand public qui n'est pas en contact régulier avec ce qui se passe dans les entreprises jurassiennes, de bien comprendre les produits qui sont vendus, la technologie. Ce n'est pas des produits qui sont vendus directement à des personnes, telles des montres. Donc il y a une certaine difficulté, je pense, à appréhender ce qui se fait. On a eu la chance, nous aussi, d'avoir quelques visites de groupes. Et c'est intéressant de pouvoir leur expliquer ce qu'on fait. Ils ont toujours beaucoup d'intérêt aussi à prendre connaissance des technologies, de voir comment certains types de pièces sont fabriquées, avec toute la technologie moderne notamment, puisque les machines-outils sont maintenant bourrées d'électronique, de capteurs, elles sont robotisées. Elles permettent d'aller bien au-delà de la fabrication de la pièce, mais de travailler vraiment dans le flux de production des clients. C'est ce qui rend aussi le métier intéressant, c'est qu'on a vraiment une vision très très large, que ce soit au niveau informatique, mécanique, robotique, dans le domaine des matériaux. C'est vraiment passionnant.
Donc pour vous, ce déficit, quelque part, en termes de notoriété sur l'innovation, au-delà de la région, il tient avant tout aux produits qui sont fabriqués plutôt que... peut-être une volonté de certains industriels de garder un petit peu ces secrets de fabrication.
Alors, évidemment, il y a une part de secret aussi. On ne va pas dévoiler quand même tous ces savoir-faire qui font la force de chacune des entreprises. Il y a certainement une capacité à mieux se vendre, évidemment. On se remet en cause tous les jours. On se remet en cause au niveau des produits, au niveau de la commercialisation aussi. Il faut pouvoir bien l'expliquer. C'est très important pour nous de pouvoir aussi mieux s'expliquer, s'exprimer auprès d'un plus large public. Mais notre public principal, c'est clair que ce sont les entreprises, ce sont des spécialistes. Et c'est eux qu'on doit convaincre en premier lieu.
La cantine évoque une interprétation des faits erronée de la municipalité de Delémont dans un communiqué publié hier soir. La municipalité avait affirmé vendredi qu'aucune proposition faite par les services communaux en vue d'une relocalisation des activités de l'association culturelle n'avait reçu l'assentiment de la cantine. L'association précise que la commune n'a pas indiqué que la cantine avait fait plusieurs propositions de location ou d'achat de bâtiments propriété de la commune, mais sans succès jusqu'à ce jour. L'association salue toutefois la mise à disposition par la ville d'un local de stockage pour une partie de son matériel et souhaite poursuivre les discussions dans le but de trouver une solution pérenne. Comment trouver un équilibre dans l'utilisation des écrans au sein de la famille? Une soirée destinée aux grands-parents est organisée mardi par les églises réformées Bern-Jura-Soleure à Tramelan. La demande est venue de plusieurs personnes qui se sentent dépassées par l'utilisation des outils numériques par leurs petits-enfants. Il s'agira donc d'un dialogue pour comprendre le rôle de ces nouveaux supports et la place qu'ils peuvent et doivent prendre dans le cercle familial. Les explications de la formatrice, la psychopédagogue Anne-Dominique Grosvernier.
Les petits-enfants maintenant sont nés avec les écrans, ils ont appris à vivre avec depuis tout petit, alors que les grands-parents ont découvert ça souvent assez tard dans leur existence. On voit donc un grand décalage entre les connaissances techniques chez les petits-enfants et chez les grands-parents, où en général les petits-enfants ont beaucoup plus de connaissances techniques que les grands-parents. Par contre, les grands-parents peuvent avoir une importance considérable dans la gestion de tous ces appareils, de savoir comment faire pour les employer dans un sens positif, constructif, que ça apporte quelque chose. Et plusieurs nous ont dit aussi qu'ils devaient parfois se battre un peu, autant entre leurs enfants qui étaient devenus parents et les petits-enfants, parce que ces écrans sont présents à table et partout. Donc cette soirée, ce sera de voir quel est le rôle des grands-parents dans cette gestion des écrans? Qu'est-ce qu'ils peuvent demander, peut-être même exiger? Mais aussi, comment ça se passe pour que ça se passe bien avec les enfants?
La soirée pour les grands-parents, intitulée « Les écrans envahissent la vie familiale, quel équilibre trouver ?» se déroule donc mardi à 19h au Centre social protestant de Tramelan. Enfin, à l'étranger, le complotiste français Rémi Daillet ainsi que sa famille ont été expulsés de Malaisie ce matin. L'homme est soupçonné d'avoir contribué à l'enlèvement de la petite Mia qui avait été retrouvée à Sainte-Croix la mi-avril. Rémi Daillet, sa compagne et leurs trois enfants devraient être remis aux autorités françaises.
Vous écoutez RFJ, 12h25.
Sport. En tennis, une finale masculine qui promet cet après-midi du côté de Roland-Garros, Yanis Gonia.
Et oui, François, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas vont se disputer le trophée du tournoi parisien cet après-midi sur les coups de 15h. Et quel que soit l'épilogue de cet affrontement entre le Serbe et le Grec, le vainqueur marquera forcément l'histoire, Marcel Neuschwander.
C'est effectivement une finale à gros enjeux qui attend le Philippe Chartrier cet après-midi à Paris. Commençons par le favori, Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial, s'il s'impose, peut devenir le premier joueur de l'histoire à remporter au moins deux fois tous les titres du Grand Chelem. Après avoir éliminé Rafael Nadal en demi-finale, le Serbe a également l'occasion de se rapprocher à une longueur du record de 20 titres majeurs, co-détenu par l'Espagnol et Roger Federer. Mais la tâche ne s'annonce pas simple face à Stefanos Tsitsipas. Le numéro 5 mondial peut devenir le premier grec à remporter un tournoi du Grand Chelem. À Paris, le joueur de 22 ans est en confiance. Il n'a égaré qu'un set avant sa demi-finale, demi-finale qu'il a conclue en 5-7 face à l'Allemand Alexander Zverev. Enfin, sachez que pour la petite histoire, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas se sont déjà affrontés 7 fois sur le circuit. Bilan, 5 victoires pour Djoko contre 2 pour le grec.
Et cette finale de Roland-Garros sera lancée à 15h du côté de Paris. Plus près de chez nous, le BC Boncourt a annoncé ce matin l'engagement d'un nouveau joueur. Patrick Kovac arrive en provenance des Lugano Tigers. Le jeune joueur de 21 ans souhaite franchir un cap en Swiss Basketball League dans les rangs du BCB. L'ancien Luganais a signé une entente de 2 ans avec la formation jurassienne. En inline hockey, la nouvelle saison de Liga a démarré hier et le leader du dernier exercice, le SHC Buy, a connu la défaite d'entrée en s'inclinant sur la piste de l'échelle 7-4. À domicile, le SHC Ajoie a lui subi la loi de Saia Luca Lugano 5-4 après les tirs au but. En football, il n'y a pas que l'Euro qui anime la sphère du ballon rond. Sur les terrains de la région, les footballeurs sont aussi à l'œuvre ce week-end à l'occasion de la reprise des championnats. C'est notamment le cas des SR de Lémont en Première Ligue. Les jaunes et noirs défient Baden cet après-midi à 15h à la Blancherie. Un match capital dans l'optique du maintien puisque les SRD ne comptent que 3 unités d'avance sur la zone rouge à 4 matchs du terme. Et du côté de la deuxième ligue interrégionale, le FC Tavannes-Tramelan est lui toujours en vie. Les 100 et or ont battu l'Erschenfeld 4-1 hier à Tramelan. Ils reviennent ainsi à un point de la barre. De son côté, le FC Moutier a quasiment validé son maintien grâce à son succès 1-0 sur la pelouse de Bubendorf. Enfin, dans le haut du panier, le FC Ajoie Monterrey a été accroché à l'Istal 1-1. Les Ajoulots comptent toujours 2 unités de retard sur le leader à 2 journées de l'épilogue. En deuxième ligue, Courtetel a validé son ascension à l'échelon supérieur grâce à son succès à domicile face à Arberg 3-1. Les Verts ont signé leur 10e succès en autant de parties cette saison, alors que 2 matchs sont encore à disputer. Et plus bas au classement, Boncourt s'est incliné à Breitenrein 2-0. Enfin, sous la barre, le premier relégable, Kourou, a été battu par Azzurribien 3-0, alors que la lanterne rouge de Velier a quitté Kirchberg sur un score à lunettes de 0-0. Du côté de la 3e ligue, dans le groupe 6, Diaspora a validé sa promotion en allant s'imposer à Belpraon 3-1. Dans le milieu de tableau, score de parité 2-2 entre Valterbi et Franche-Montagne et victoire de Vic à la Neuville 1-0. Courant de Lens s'est incliné à Tavannes-Tramelan 1-0 alors que la lanterne rouge Kourou a subi la loi de Cour 5-0. Enfin, dans le groupe 7, l'épilogue est connu en bas de tableau. Les deux derniers, Basse-Cour et Courtetel, ont respectivement subi la loi de Delémont 8-0 et de Glovelier 2-0. Bure va également connaître la relégation suite à sa défaite à Lunier d'Enfreux 2-0. En haut de tableau, le dauphin de Porrentruy, Otageois, s'est pris les pieds dans le tapis à Courfèvre avec une défaite 3-2. La route vers la promotion est donc dégagée pour les Brintrutins.
Le Le journal de l'euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen.
Remettre l'ouvrage sur le métier mercredi contre l'Italie, c'est désormais la mission de l'équipe de Suisse de football. On le sait, pour son premier match de l'Euro, la sélection de Vladimir Petkovic a partagé l'enjeu un partout avec le Pays de Galles, hier à Bakou, en Azerbaïdjan. Les Suisses ont ouvert la marque par Brelem Bolo de la tête à la 49e minute sur un corner de Sherdan Shaqiri. Mais les Gallois ont réussi à égaliser à un quart d'heure de la fin à la suite d'un autre coup de tête de Kiefer Moore cette fois. Les Suisses ont donc dominé mais pas gagné, la frustration légitime de Yann Sommer à l'issue de la partie.
C'est dommage, parce que je pense qu'on était bien dedans, on a eu beaucoup de qualité avec le ballon. D'abord, on a eu des occasions pour marquer plusieurs buts, mais à la fin, sur ce niveau, c'est toujours les détails qui comptent. On a une face, deuxième mi-temps, on était trop passif.
Suite au but, il y a eu 5-10 bonnes minutes, et puis ensuite, c'est quoi? C'est l'équipe qui a un peu de la peine à gérer une avance?
On était trop passif, comme j'ai dit, et puis on a pris un peu le jeu de Pays de Galles. Le ballon dans les pieds, on n'a pas joué dans quelques phases, deuxième mi-temps, et puis ça c'est dommage parce qu'on a eu l'espace pour aller devant et deuxième mi-temps, on a eu des phases qu'on n'a pas trouvé ça.
Et des propos recueillis par notre confrère de la RTS, Bernardin Alemann. Aujourd'hui, 3 matchs sont au programme de l'Euro. Dans le groupe D, Angleterre-Croatie se jouera à 15h. Dans la poule C, ce sera Autriche-Macédoine du Nord à 18h et Pays-Bas-Ukraine à 21h. Enfin, on termine cette édition avec de bonnes nouvelles en provenance de Copenhague. Le joueur danois Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque hier peu avant la mi-temps de la rencontre Danemark-Finlande, est toujours dans un état stable. Il a notamment eu l'occasion de saluer et de rassurer ses coéquipiers ce matin, a annoncé la fédération danoise dans un tweet. Et pour la petite histoire, la Finlande a finalement remporté la partie 1-0 après près de 2 heures d'interruption.
Le journal de l'euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen.
Alors, un temps bien ensoleillé pour cet après-midi, des températures de saison avec de petits cumulus de beau temps sur les crêtes jurassiennes. Cet après-midi, les températures seront de 25 au meilleur de la journée et de 22 à 1000 mètres d'altitude. Demain lundi, un beau temps, une excellente visibilité, des petits cumulus encore dans le jour à l'après-midi, un petit peu plus joufflu et pouvant localement donner une averse au sud du massif dans la région. Et les maximales vont atteindre 24 à 1000 mètres d'altitude et normalement, il y aura même 28 degrés en pleine. Et puis alors, le thermomètre va encore augmenter pour atteindre 30 degrés en pleine mardi et 31 mercredi.